France Inter.
Le journal Victor Delande. Bonjour Victor.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, fumée blanche pour la liste Renaissance aux élections européennes.
Le parti présidentiel a dévoilé hier les 30 premiers noms. Pas de surprise ni de nouveaux noms clinquants. La plupart des eurodéputés actuels sont reconduits en position éligible. Dans l'actualité également ce matin, les étudiants continuent de protester contre la guerre à Gaza. Sciences Po Paris et Sciences Po Lyon évacués hier et fermés jusqu'au 12 mai. Nous nous sommes rendus à Poitiers où la mobilisation se poursuit. À 6 mois des élections américaines, les partisans de Donald Trump mettent la main à la poche pour financer la campagne. Reportage à suivre en Géorgie. Et puis finale de la Coupe de France de football féminin ce soir, avec une nouveauté du côté de l'arbitrage.
Et les invités de France Inter ce matin à 7h50, rendez-vous exceptionnel avec une figure ukrainienne, le maire de Kiev, Vitali Klitschko. De passage à Paris pour un événement avec d'autres maires aux côtés du candidat aux européennes, Raphaël Glucksmann. Et à 8h20, apprivoiser nos peurs pour traverser ce siècle. C'est l'objectif de nos deux invités, Pablo Servigne et Nathan Obadia. Ils signent Le pouvoir du suricate aux éditions du Seuil. Vos questions, vos témoignages, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.
France Inter.
Nous sommes à 36 jours exactement du premier tour des élections européennes. Et après des mois de tractations entre les partenaires de la majorité, on en sait enfin un peu plus sur la liste Renaissance. Les 30 premiers noms de la liste du camp présidentiel ont été dévoilés hier soir, avant la présentation du programme lundi et un meeting à Paris mardi soir. Dans cette liste prime aux sortants, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta ou encore Pascal Canfin. Parmi les 23 eurodéputés actuels, 14 sont reconduits en position éligible, Marie Mollet.
Renaissance avait rêvé de nouveaux visages pour sa liste. Seulement voilà, rien ne va plus dans les sondages et le nombre de places éligibles fondent à vue d'œil. Alors le parti a choisi de sécuriser d'abord les sortants. À la place de numéro 2, Bernard Guetta, ancien journaliste, spécialiste en géopolitique, en pointe sur la guerre en Ukraine, propulsé pour porter le thème prioritaire de la campagne dans son camp. Un peu plus loin, Pascal Canfin, ex-écologiste, président de la puissante commission environnement au Parlement européen. En interne, certains jugeaient son profil trop urticant après la crise agricole. Finalement, il sauve une jolie quatrième place. Mais aussi reconduit, l'agriculteur Jérémy Deserle ou la modem Marie-Pierre Védrenne. Et puis tout de même, quelques surprises qui ont été glissées dans cette liste. Le patron de l'École nationale des sapeurs-pompiers, Grégory Allion, à la 8e place. Ou Rachel-Flore Pardo, avocate engagée dans la lutte contre le sexisme. L'idée de débaucher un militaire avait aussi été évoquée pour porter l'Europe de la défense. Idée finalement écartée.
Les précisions de Marie Mollet du service politique de France Inter. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a percuté un cycliste avec sa voiture personnelle hier soir à Paris. L'accident s'est produit vers 19h30 dans le 6e arrondissement de la capitale. Selon l'entourage du ministre, le cycliste a grillé un feu rouge. D'après la police, il a été envoyé à l'hôpital blessé à l'arcade et avec un possible traumatisme crânien. Aucune blessure n'a été constatée du côté de Bruno Le Maire. Selon son entourage, il a été testé négatif aux drogues et à l'alcool.
Le Hamas arrive au Caire aujourd'hui pour tenter de trouver un accord avec Israël sur une trêve à Gaza.
Le Hamas se dit déterminé à parvenir à cet accord dans les meilleurs délais. Côté américain, l'un des pays médiateurs, on n'y croit pas trop. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken estime ce matin que le Hamas est le seul obstacle entre le peuple de Gaza et un cessez-le-feu, dit-il. En France, face aux mobilisations pro-palestiniennes dans différentes universités, le gouvernement serre la vis. La ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau a demandé au président d'université de veiller au maintien de l'ordre. Et malgré la fermeture annoncée des principaux locaux de Sciences Po Paris et Lyon, la mobilisation continue notamment au Havre, à Dijon ou encore à Poitiers. Après plusieurs jours de blocus la semaine dernière, ils étaient encore une vingtaine à occuper l'entrée du campus Poitevin hier matin. Reportage Clémentine Proutot de France Bleu Poitou.
Il y a les flics à l'intérieur de l'Occup là.
Rassemblés sous une toile de tente, les étudiants mobilisés suivent en direct l'évacuation de Sciences Po Paris sur les réseaux sociaux. Une intervention incomprise par certains étudiants présents. Ils préfèrent rester anonymes.
Notre mouvement se fait dans un contexte pacifiste. On ne fait pas de dégradation, pas de débordement. D'ailleurs, ça fait partie de nos revendications. On veut la fin de l'intervention des forces de l'ordre à Sciences Po et plus globalement dans les universités.
Des revendications qui n'ont pas changé depuis le début de la mobilisation.
Une commission d'enquête sur les partenariats avec Israël. Israël, parce qu'on est inquiet sur les violations des droits humains et le fait que ces universités peuvent soutenir le gouvernement israélien. Et une condamnation du risque de génocide en cours à Gaza, qui est reconnue par la Cour internationale de justice.
Un début de dialogue a bien été amorcé avec l'administration, sans grand succès.
C'est une réalité finalement de ne pas être entendu par notre administration, puisqu'on n'a aucune réponse positive et que...
On déplore souvent aujourd'hui une jeunesse qui manquerait d'être politisée, qui manquerait d'engagement, et justement on prouve que c'est pas le cas et que les étudiants continuent à s'engager.
Alors les étudiants de l'IEP de Poitiers restent mobilisés malgré le froid et les examens qui approchent.
Et après les universités, place au lycée. L'Union syndicale lycéenne a annoncé hier soir des blocages dans les établissements partout en France à partir de lundi. Entre 3 et 10 000 personnes sont attendues cet après-midi à Châteauroux pour la marche blanche en l'honneur de Matisse, l'adolescent de 15 ans tué au couteau samedi dernier par un garçon du même âge. Le père de Matisse a appelé au calme. Il souhaite surtout que cet hommage ne soit pas récupéré politiquement. Hier soir pourtant, une dizaine de militants identitaires et nationalistes ont déployé des banderoles devant la mairie de Châteauroux demandant justice pour Matisse. Nous sommes à 6 mois de l'élection présidentielle américaine et première information, Joe Biden a collecté beaucoup plus d'argent pour sa campagne que Donald Trump. 156 millions pour le président démocrate contre 111 millions pour le candidat républicain selon la commission électorale fédérale. Mais en Géorgie, état du Sud très conservateur où Joe Biden l'avait emporté sur le fil en 2020, c'est le candidat républicain qui a levé le plus d'argent, presque deux fois plus. Ce qui n'étonne pas ces républicains pro-Trump rencontrés par Julie Pietri et Hélène Langlois à Monticello dans le comité de Jasper.
Presque 3 millions pour Donald Trump en Géorgie, moins d'1,6 million pour Joe Biden. Marie Patrick est la présidente des Républicains du comté.
Les gens donnent plus à Trump depuis qu'il a tous ses procès.
Ça l'aide même, assure Lynn et Linda, deux retraitées républicaines de Monticello. Parce que nous sommes en colère. S'il avait tué quelqu'un, ce serait différent. Donald Trump est accusé en Géorgie d'avoir tenté de renverser les résultats de la dernière présidentielle. Voyant l'État passer côté démocrate, il avait crié à la fraude et même appelé le secrétaire d'État de Géorgie à un républicain pour lui demander de trouver les 11 780 voix qui manquaient à sa victoire. C'est juste politique. Si la Géorgie soutient plus financièrement le candidat Trump, c'est bien Joe Biden qui a recueilli pour l'instant le plus d'argent en son nom aux États-Unis.
Je pense que les médias d'information font tout pour montrer que Biden est en tête, qu'il va gagner. Je n'y crois pas.
J'ai l'impression que la précédente élection a été volée. Et j'ai peur que ça arrive à nouveau en novembre. À un moment, la population en a assez de se faire écraser et que personne ne se rende compte de ce qui se passe.
Pourtant, les accusations de fraude portée par Donald Trump ici ont été depuis démentis.
Un reportage de Julie Pietri et Hélène Langlois dans le comté de Jasper en Géorgie.
Les scientifiques s'intéressent de près à la mortalité des petits oiseaux.
Oui, car suivant les années, cette mortalité varie beaucoup. Des chercheurs du Muséum National d'Histoire Naturelle se sont donc demandé si c'était à cause des changements climatiques d'une année sur l'autre ou de leur mode de vie, leur habitat. Les résultats de ces recherches viennent d'être publiés dans la revue Écologie, Sophie Bécherel.
Mésanges charbonnières, rossignols ou fauvettes à tête noire, 16 espèces ont été étudiées. Leur taux de survie d'une année sur l'autre augmente ou diminue de manière synchrone. C'est d'autant plus étonnant que certains de ces oiseaux vont passer leur vie sur un même territoire, 100 km tout au plus de leur lieu de naissance, quand d'autres vont chaque année migrer en Afrique. Un voyage réputé risqué, avec la rencontre de prédateurs, la pollution lumineuse ou encore le déficit de sommeil. Si la migration n'impacte pas la mortalité de ces passereaux, c'est donc qu'il faut chercher ailleurs, explique Manon Guilin, chargée de mission pour la surveillance de la biodiversité au Muséum.
La qualité du site de reproduction, de l'endroit où elles vont se reproduire, est très déterminante dans leur survie d'une année à l'autre. Ce qui veut dire qu'on a vraiment une grosse responsabilité en France pour maintenir des bonnes conditions dans ces espaces naturels où ces oiseaux vont se reproduire pour la pérennité de ces populations.
Zones humides, rosières, haies, si on préserve ces lieux d'habitat, on garantit la qualité de nourriture disponible.
Ces petits oiseaux, en période de reproduction, ils vont se nourrir exclusivement d'insectes et nourrir leurs jeunes d'insectes également. Donc ils vont passer leur journée à faire des allers-retours pour nourrir leurs jeunes.
D'où l'importance de limiter la pression de l'homme et l'usage des pesticides dont l'impact négatif sur la population des insectes n'est plus à démontrer.
Sophie Bécherel, spécialiste Sciences de France Inter.
C'était le journal de Victor Dolande à suivre. Zoom sur ces milliers de tonnes de déchets toxiques qui s'accumulent sur l'ex-site de Stocamine en Alsace.